Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse, formule collégiale, une rentrée tardive certes, mais de qualité, n'est-ce pas? Avec la Dream Team à mes côtés aujourd'hui pour débattre de l'actualité insulaire, Michel Barin, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour.
Laurent Dominati, diplomate, éditeur, homme de médias. On vous recommande d'ailleurs le site d'information lesfrançais.presse. Bonjour Laurent Dominati.
Bonjour.
Et last but not least, François Casasoprane, fondateur du mouvement Éco. Bonjour François.
Bonjour.
Allez, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par vos moments forts de la rentrée politique, économique, sociale, culturelle, sportive. Vous êtes libre, bien sûr, et François, vous ouvrez le bal.
Alors les moments forts, il y a quand même un événement marquant, c'est après la canicule, la sécheresse de l'été, une petite glaciation dans les relations entre le gouvernement et la Corse,
oui.
Qu'on espère peut-être passagère, une de ces petites intempéries, mais qui doit quand même nous interroger. Puis des choses un petit peu plus légères, quand même le football corse se porte pas mal, est très festif, voilà, ça c'est pour les dernières actualités, mais ne mettons
vous
quand
même pas... Vous documentez régulièrement, hein, parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux, les matchs de la CA, c'est ça.
Mais ne mettons quand même pas l'actualité, ces deux actualités sur le même plan.
Non, absolument pas. Michel Barra.
Oh bah écoutez, je crois que le moment fort, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien.
J'étais sûr que vous alliez me dire ça, Michel.
Non, mais quand on regarde les choses de près... Bon, il faut dire aussi qu'il y a une actualité internationale qui est un peu écrasante et qui ne laisse pas de place beaucoup au local. Et là, je suis absolument pas, je veux pas minimiser le local, mais c'est quand même écrasant. Il y a eu si, il y a quand même eu un événement sportif. Il est national plus que corse. L'équipe de France de rugby a fait une année sans jamais être battue et est classée pour la première fois numéro 1 mondial. Alors comme je suis un ancien rugbyman, je donne celle-là. Je suis assez d'accord avec ce que dit François sur le football corse. Et puis bon, je suis pas mécontent d'ailleurs que le football corse ait été ramené au sud plus qu'au nord. Mais cela dit, donc, pas grand-chose.
Pas grand-chose. Bon,
le coup de froid entre l'État et... Et la Corse, qui en est étonné?
Oh, absolument personne.
Ça devait arriver. Je pense même qu'un grand piège a été tenu pour montrer que ça ne pouvait pas fonctionner.
On va poser directement la question de savoir si c'est un jeu de dupes. Mais avant ça, Laurent Dominati, à vous. Quel événement ou non-événement vous a marqué ces dernières semaines?
Alors, si on parle de football, c'est effectivement le Gazélec, et j'attends que les Qataris rachètent le Gazélec, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il s'agit toujours de gaz.
Oui, ça c'est très bien.
L'espoir n'empêche pas de vivre. Voilà, le renouveau du Gazélec passera peut-être donc par le Qatar. Au-delà, pour être sérieux, alors, est-ce un événement? Ça n'est pas vraiment un événement. C'est même une supposition plus qu'une certitude. J'ai le sentiment, à lire l'actualité ces derniers mois, qu'il y a dans l'attitude du gouvernement une autre approche, notamment en matière de justice et d'enquête criminelle. J'ai été surpris, agréablement d'ailleurs, de voir que, enfin... Pour une fois, depuis longtemps, il y avait une sorte de continuité dans l'action de la police et de la justice en Corse pour lutter contre le crime organisé, ce qui est un préalable indiscutable, incontournable à toute évolution politique, législative, réglementaire de la Corse. Si, alors que les Corses, depuis très longtemps, disent... Il y a un danger, nous vivons dans un danger institutionnel parce qu'il y a une criminalité institutionnelle en Corse qui devient de plus en plus forte. Et nous avions le sentiment, quand je dis nous, c'est-à-dire nous les Corses, hein, de ne pas vraiment être entendus par l'État. Or, c'est le premier rôle de l'État. C'est ce qui fonde son autorité et c'est ce qui fait qu'on le respecte. Eh bien, on avait le sentiment de ne pas être entendu. Et depuis quelques mois, alors c'est pas exactement l'été, hein, c'est bon. Depuis quelques mois, on a le sentiment, vu de loin, parce que je suis pas du tout informé particulièrement des différentes actions de la police, heureusement, et de la justice, on a quand même le sentiment que là, il y a eu des instructions qui ont pu être données, puisqu'on voit quelques effets. Et là, il me semble qu'il se passe quelque chose. Enfin, je dis, c'est une supposition... C'est un pointillé, et j'espère que ce sera une ligne continue et qu'il ira plus loin.
Est-ce que ce sentiment est partagé, Michel Barra?
Oui, et en plus, je pense que c'est pas simplement, d'ailleurs, par rapport à la Corse. On voit une l'efficacité des actions contre le banditisme ou contre la délinquance importante sur l'ensemble du pays. Le temps pour la résolution d'une affaire se raccourcit d'une manière assez impressionnante. Alors, même remarque que Laurent, est-ce un événement passager ou est-ce une ligne continue? Mais c'est vrai ce qu'il a dit, et puis pour nous, c'est extrêmement important, y compris pour la question du dialogue entre Paris et la Corse.
François Casasoprane.
Moi, j'attends pour voir. Un des événements aussi de la rentrée, c'est une nomination très politique au niveau judiciaire. Donc on attend de voir. Pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup de résultats. Le changement est peut-être plutôt à chercher dans la société corse. Je me souviens, il y a quelque temps, dès que l'on évoquait le mot mafia, on était de ceux qui voulaient stigmatiser les Corses. Il n'y avait pas plus de mafia ici que dans des endroits beaucoup plus paisibles qu'on choisissait, bien entendu, sciemment pour leur calme et leur caractère non criminel. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on dit les choses. Donc le changement, il est peut-être justement de l'activité des comités anti-mafia, de l'activité de ces élus qui ont parlé aussi, de ces simples citoyens qui voient qu'il se passe des choses. Il faut quand même que la justice soit au rendez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bandes hors d'état de nuire. En tout cas, ça ne se sait pas. J'espère que c'est le cas et que ça se fait discrètement. Mais aujourd'hui, ça ne se sait pas du tout. Donc attendons pour voir, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est une vraie orientation politique de fond, est-ce qu'on a fait un certain nombre de nominations pour aller au fond des choses et avoir des résultats, ou est-ce qu'on l'a fait plus pour avoir des porte-paroles supplémentaires de l'action gouvernementale. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'il faut maintenant laisser travailler la justice. On le dit à chaque fois qu'il y a une affaire. On espère aussi quelques résultats, qu'on voit des gens qui pourront entreprendre librement, qu'on verra aussi moins de contestations, moins de doutes, moins de suspicions sur un certain nombre d'autorisations d'urbanisme, et ça serait déjà une bonne chose.
Allez, affaire à suivre. Je le sais, vous avez suivi le feuilleton de l'été et de la rentrée, qui sera peut-être aussi long qu'une telenovela sud-américaine. J'ai nommé les discussions entre la Corse et Paris. Au mois de septembre, dans le cadre du cycle de négociations sur l'avenir de l'île entre le ministère de l'Intérieur et une vingtaine de représentants insulaires, les questions sociales et économiques ont enfin été posées. Après une journée de discussion, le bilan de Gérald Darmanin est implacable. L'économie doit être renforcée et les urgences, comme le pouvoir d'achat, le prix de l'essence ou les problèmes des déchets, doivent être traités urgemment. Le ministre de l'Intérieur a également donné des devoirs aux élus. La majorité devra imaginer son projet économique rêvé pour la Corse. Alors chacun y va de ses voeux, fiscalité, adaptation législative, rallonge budgétaire. Mais qu'en est-il du projet global? La question reste ouverte. Michel Barra.
Ah ben écoutez, c'est vraiment la question. Moi, j'attends toujours qu'un élu corse me dise ce qu'il entend par autonomie. Est-ce inconscient, l'autonomie de la volonté? Ça se comprend. Je crois pas que ça soit ça. Je sais pas de quoi il parle pour l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot autonomie? L'autonomie, c'est celui qui se donne ses propres lois. Alors, si on nous donne nos propres lois, ça prendra un autre nom, d'ailleurs, que l'autonomie, ça s'appellera l'indépendance. Faut être parfaitement clair. Il y a une ambiguïté. Bon, mais cela dit, l'autonomie, ça peut être une décentralisation plus forte. Mais où? Dans quel domaine? Et pourquoi? Alors, on a même entendu parler à un moment, ça a failli se faire d'ailleurs dans le domaine de l'éducation, où les chefs d'établissement de Corse ne seraient plus sous l'autorité de l'État, ce qui est le cas actuellement, mais passeraient sous l'autorité de la CTC. Pourquoi pas? Bon, moi je suis très réservé là-dessus, mais ça c'est une opinion, mais je peux comprendre que l'on fasse ça. Ils réclament la santé. Oui, il ouvre encore l'hôpital d'Ajaccio. Donc je dis effectivement, la vraie question, c'est est-ce que l'autonomie va être un moyen de plus d'efficacité? J'ai même lu quand même dans un rapport publié par la présidente de l'Assemblée que, d'une manière extraordinaire, le lien entre l'autonomie et la santé, parce que 3%, c'est ce qui est écrit quand même, de plus d'autonomie, et il dira, et ça c'est une très bonne nouvelle pour moi, 10% de plus d'espérance de vie. Mais comment on peut écrire des conneries pareilles? Excusez-moi, j'ai utilisé le gros mot, mais comment peut-on sortir une imbécilité pareille? Alors évidemment, la question c'est de définir un projet. On sera pour, on sera contre. Mais s'il y a un projet, même si on est contre, c'est pas un problème. C'est, on sort de l'ambiguïté. Voilà le premier point. Et puis ensuite, il y a bien sûr le refroidissement pour d'autres raisons entre l'État et la Corse.
Laurent Dominati, ils n'ont pas de projet.
Pardon ?
Les élus insulaires n'ont pas de projet de la majorité, selon vous.
Écoutez.
Ou alors ils sont très secrets.
Ils sont en train de discuter, disons. Hein
de concerter.
Il y a un coup de refroidissement. Je crois que la réunion qui était à Paris était intéressante. Elle était intéressante des deux côtés. Elle était même un peu surprenante parce qu'il y a effectivement deux rapports qui ont été faits, l'un par un inspecteur des finances, l'autre par un inspecteur des affaires sociales, qui décrivaient la situation sociale et économique de la Corse. Et de ce point de vue, le rapport, quand on le lit, a des points très intéressants. Tout d'abord, elle confirme beaucoup de choses que l'on sait déjà, c'est-à-dire que la Corse n'est pas la plus riche des régions françaises. Elle n'est pas tout à fait la plus pauvre non plus, si on regarde par département. Deuxièmement, et c'est le ministre qui l'a dit, il a raison, il a résumé ça en une phrase d'Armanin, et il a eu raison, il a dit la Corse ne coûte pas cher. Elle coûte mais pas si cher. C'est bon à savoir parce qu'en réalité, quand on regarde, toutes les régions de France, sauf l'Île-de-France, je crois, coûtent. Bon, donc voilà. Donc il faut bien se rendre compte de ces réalités. Le rapport n'est pas tout à fait complet parce qu'il n'intègre pas dans les différents coûts le poids de la fonction publique en Corse. Or, le poids de la fonction publique en Corse est extrêmement important dans l'emploi général. Mais enfin, c'était un tableau qui, justement, en fait, si on regarde, et pour prolonger ce que dit Jean-Michel Barra, replacer la question de l'autonomie dans le contexte économique et social. Voilà. Et il faut partir des réalités. Et ça veut dire aussi qu'on peut avoir une autonomie, c'est-à-dire effectivement dans le domaine à choisir, de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de l'environnement, des déchets, des transports, de beaucoup de choses. Parce que quand on regarde les autres régions méditerranéennes qui ont un statut d'autonomie, ce qu'a d'ailleurs fait le gouvernement, ce qu'a d'ailleurs fait Darmanin, oui, où il a fait une étude comparative des différents statuts, on voit que la Sicile ou la Sardaigne, par exemple, ont ceci, ont les recettes fiscales, ont l'éducation, ont la santé. Bref, c'est un peu à la carte. Mais évidemment, il faut avoir les ressources en face. Si vous n'avez pas de tableau de départ et que vous demandez l'autonomie, vous vous retrouvez ruiné en moins de deux. C'est le cas de la Polynésie pour la sécurité sociale. On en avait déjà parlé. Donc il faut savoir ce que l'on demande. Il faut savoir ce que l'État est prêt à donner. Donc ça n'est pas impossible, mais il faut bien faire le compte avant. Et là, de ce point de vue-là, les élus corses ont un devoir. Je trouve que, effectivement, maintenant, il faut définir un projet économique et social et définir un projet politique en disant à l'État, voilà ce qu'on voudrait, et est-ce que vous êtes prêt aussi à donner la soulte? Parce que s'il n'y a pas l'argent, c'est impossible. Mais moi, je reste indécrottablement optimiste. Je me dis que, à la France, la Corse ne coûte pas cher, et qu'avoir une île qui, effectivement, arrive à se gérer, à se développer par elle-même, c'est quand même un projet intéressant, économiquement, écologiquement, et dans d'autres domaines. De ce point de vue-là, peut-être que j'anticipe un petit peu pour conclure, mais la lettre de Simeone sur la continuité territoriale, c'est à mon sens un point important. Mais on va en reparler tout à l'heure, je pense.
Absolument.
Voilà,
absolument.
Je laisse la parole.
Oui, mais la Corse coûte moins cher, du moins en valeur relative, que la Polynésie française ou que la Nouvelle-Calédonie. Je prends les systèmes de sécurité sociale de ces deux territoires, pays d'outre-mer même. Ils sont renfloués systématiquement.
Qui ont un statut d'autonomie.
Et ils sont en faillite.
Ah, ils sont en faillite. Mais surtout, le plus grave.
Mais en Calédonie, c'est pareil.
Pour la Polynésie, c'est qu'ils sont, non seulement ils sont en faillite, je parle pour la santé, mais ils sont beaucoup moins bien couverts.
Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose
que les Français du continent. Et c'est la même chose. Donc, c'est pas forcément ce que l'on souhaite en Corse. C'est pour ça qu'il faut être très clair. Et que le bilan économique et social est important.
Puisqu'à un moment, certains prenaient comme référence soit le système polynésien, soit le système calédonien. Hein.
François Casasoprane.
Moi, je trouve qu'en Corse, il y a des projets. Un des événements marquants aussi de cette rentrée, c'est ce classement sur les chercheurs les plus influents.
Oui.
Et il se passe des choses en Corse. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui ont envie aussi d'investir et de travailler en Corse.
François, je vous coupe. Effectivement, il y a des projets, mais il n'y a pas un projet.
Voilà, vous devancez mon propos. Je trouve que ce qui est, et d'ailleurs ça a été rappelé, il y a des travaux aussi là-dessus. hein, et les rapports qui sont donnés. Ce qui manque, c'est la parole politique. Non seulement elle ne prend pas en compte ce qui se passe, la réalité de la vie en Corse. Moi, j'entends souvent parler de la question sociale sous l'angle de la santé. Il y a une question sociale aussi, il y a une question de santé importante. On a eu l'occasion d'en parler aussi avec nos expériences personnelles, hein, c'était il y a quelques mois. Mais il y a des problèmes sociaux aussi. Mmh. Et on a une parole publique qui n'épouse pas la réalité et qui ne porte pas, qui n'imprime pas. On a le sentiment qu'on a plutôt des influences, qu'on a plutôt des petits lobbies. Hein, on ne va pas non plus jeter la suspicion sur tout ce qui se passe, qui susurrent à l'oreille des élus, comme ça, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, ça serait bien de glisser un petit mot là-dessus, ça serait bien de glisser un petit mot là-dessus.
Vous parlez pour l'industrie hôtelière, entre autres ? Vous parlez pour l'industrie hôtelière, entre autres, qui a fait un gros lobbying par rapport
dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'écologie. Il y a des influences qui peuvent être d'ailleurs, je porte aucun jugement de valeur là-dessus, hein, parce qu'elles peuvent être aussi parfois excellentes, ces influences. Mais on a ce sentiment-là, comme ça, qu'on a des petits mots susurés à l'oreille de nos dirigeants locaux, déjà. Ça me pose un souci. Nationaux aussi. Quand on parle de la Corse, on aimerait un petit peu plus de hauteur. Et qu'on n'a pas une vraie discussion sur ce qu'on veut dans 20 ans, ce qu'on veut dans 30 ans, ce qu'on veut changer. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant en management, il sait qu'on a le scénario au fil de l'eau et on a les ruptures qu'on souhaite mettre en œuvre. Et ça, c'est pas exprimé clairement. Et je pense que le premier problème n'est pas un problème de réflexion. Le premier problème est un problème de parole et de démocratie.
Mais là où vous parlez d'influence, François, les élus vont vous répondre, ou les politiques en général vont vous répondre, concertation.
Oui, peut-être, mais en même temps, je vois pas beaucoup de choix, de contre-pieds. On voit toujours des félicitations, on a reçu tel porteur de projet, c'est très bien, c'est ce qu'on veut, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Parfois, il y a des contradictions, parfois, ça a été rappelé, hein, on est quand même sur des périmètres budgétaires assez contraints, donc parfois, il y a des choix à faire. Il faut être capable d'expliquer. C'est un très beau projet, mais il n'est pas pour la Corse d'aujourd'hui. Il est peut-être pour la Corse que nous voulons dans 20 ans. Et moi, je résume ça à un problème démocratique aussi. C'est-à-dire que ce processus, pour l'instant, il ne vit pas. Il ne vit pas tant que ça à l'Assemblée. On a l'impression toujours d'un face-à-face exécutif-gouvernement. C'est bien. Mais il ne vit pas tant que ça à l'Assemblée nationale. Il ne vit pas tant que ça à l'Assemblée de Corse. Je pense que l'absence quand même du ministre de l'Intérieur au Congrès des maires, pour moi, c'est quand même assez problématique. On a beau vouloir leur donner la parole, venir s'exprimer au Congrès des maires. Vous savez, j'ai vu un ministre de l'Intérieur qui n'était pas du tout personne pour qui j'avais beaucoup d'affection, beaucoup d'idolâtrie, comme beaucoup d'élus ici qui prétendaient le combattre. J'ai vu Nicolas Sarkozy aux assises des pouvoirs locaux. C'était quelque chose quand même. Il y a eu un vrai dialogue. On a pu parler de dialogue sur l'assainissement. J'ai vu des ministres de l'Intérieur aussi. J'ai vu Bernard Cazeneuve venir et dire chiche aux élus. C'est des paroles assez fortes. Ça ne m'aurait pas déplu que le ministre de l'Intérieur actuel ait un peu plus de courage et venir à s'exprimer devant les maires.
Michel Marat.
Oui, l'exemple que vient de donner François de l'université, il a raison. Il y a 4 chercheurs de l'université qui ont été repérés internationalement comme faisant partie des 2% les plus influents. Mais il faut faire très attention, justement. Ça, c'est la réussite de l'université d'Aiello. Depuis, plus rien. Et aujourd'hui, vous avez sur l'université quelque chose qui est quand même très grave, c'est que le phénomène que les étudiants corses, aujourd'hui, commencent à être de plus en plus de nouveau sur le continent, est un fait. La filière littéraire n'existe plus. Donc, la question, ça montre, on peut faire, il y a des personnes qui peuvent faire, mais où est la volonté de faire ? Et comme il bosse, c'est le problème du débat politique au sens, je vais dire, fort du mot politique. Y a-t-il en Corse un débat politique ? Il y a des affrontements. La politique est là, je crois, on dit comme ça en Corse. Il y a des affrontements avec l'État. Mais y a-t-il un débat à l'Assemblée de Corse ? Quand il parle d'une parole, c'est ça. Tout à l'heure, je disais, un projet d'autonomie, on peut être pour, on peut être contre. Mais à la limite, ça n'a aucune importance d'être pour ou d'être contre. Du moment qu'il y en a un. Et effectivement, pas de vision synthétique, pas de globalité. Mais en fait, en Corse, pas de parole politique.
Oui, et je rappelle que l'offre de formation, en partie, relève de la collectivité.
À l'université, oui.
Voilà. On va parler gros sous. Cette semaine, Elisabeth Borne, la première ministre, a utilisé le fameux 49.3 pour faire passer sans vote la partie recette du projet de loi de finances, premier volet du budget 2023 de l'État. Bilan demi-teinte pour la Corse au chapitre des refus. La rallonge exceptionnelle est estimée à 220 millions d'euros au titre de la continuité territoriale qui n'a pas été intégrée au budget, de même qu'une prime carburant pour les actifs insulaires. S'agissant des points plus positifs, le maintien du crédit d'impôt pour les investisseurs jusqu'en 2025, même si le secteur hôtelier est lésé. Un amendement a été intégré au texte prévoyant le principe d'une taxe supplémentaire sur les plus-values immobilières en cas de vente de résidences secondaires. Enfin, une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires toujours pourra être appliquée, notamment à Calvi, Porto Vecchio ou encore Bonifacio, une majoration pouvant aller jusqu'à 60%. Votre impression générale, Laurent Dominati?
Alors, ce sont des... Premièrement, sur le plus important, je dirais, oui, qui est la continuité territoriale. Je crois que la demande de la Corse est assez justifiée, non seulement par le carburant, mais tout simplement parce que la dotation n'a pas bougé depuis, je crois, 2009, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, la raison pour laquelle l'État n'a jamais augmenté la dotation, c'est qu'elle n'était pas totalement consommée. Et voilà, il faut avoir l'ensemble et se poser des questions. Oui, l'État, pourquoi il refuse, c'est pas très bien, mais pourquoi est-ce qu'on consomme pas tout ça? C'est un peu dommage depuis tant d'années. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que quand on regarde le budget des routes et le budget de la dotation, eh ben, le budget des routes de la collectivité, qui maintenant réunit les deux départements qui auparavant s'occupaient des routes, ben, il n'est pas beaucoup plus important que la dotation. Ça veut dire qu'on met autant d'argent pour les relations entre le continent et la Corse que pour la circulation intérieure. Ce qui explique qu'Ajaccio et Bastia sont les deux villes d'Europe qui sont les plus éloignées l'une de l'autre dans toute l'Europe. Parce qu'il n'y a pas une ville en Europe où vous mettez 3 heures pour aller à une autre petite ville de 60 000 habitants. Ça n'existe pas. Ce qui montre à quel point, d'ailleurs, la Corse est effectivement particulière dans sa géographie et dans sa géographie humaine. Donc, la question de la continuité territoriale, je pense que la Corse a raison de demander, mais en même temps, elle doit s'interroger sur sa politique de transport. Et pourquoi elle met autant d'argent, ou pourquoi elle n'en a pas mis autant, pourquoi elle n'a pas dépensé? Je pense que, justement, dans les discussions avec le ministre de l'Intérieur, ça devrait entrer en ligne de compte. Deuxième réflexion sur cette histoire, le président de l'exécutif, Gilles Simeone, dit une petite pique au ministre de l'Intérieur en disant, en gros, bah oui, vous êtes bien gentil, mais en gros, vous comptez pas au gouvernement. Puisque, je traduis, mais en gros, ça veut dire, bah, vous disiez que vous étiez prêt à nous aider, mais enfin, quand on demande un truc à l'Assemblée, au Premier ministre, eh ben, finalement, vous ne l'obtenez pas, c'est le budget, c'est l'économie, c'est le Matignon, et puis quelques autres qui décident, mais vous n'avez pas réussi à. Eh bien, c'est une réflexion importante à avoir. Parce que cela veut dire quoi? C'est pas tout à fait faux. Ça veut dire qu'à Paris, comme en Corse, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il y ait de bonnes relations entre l'État et la collectivité. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que les choses s'arrangent. Il y a beaucoup d'argent qui ne veulent pas que les uns et les autres travaillent ensemble. Et il faut le savoir, et il faut l'intégrer en Corse et à Paris. Et si, par exemple, le ministre n'est pas venu, c'est parce qu'il y avait effectivement la motion sur le prisonnier, patati patata, etc., qui faisait qu'effectivement, ce n'était pas un contexte favorable. Et si cette motion est venue, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens en Corse qui ne veulent pas non plus que Simeone discute avec Darmanin. Et à Paris, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que Darmanin discute avec Simeone.
Bon,
il faut prendre ça en tête.
Voilà. Est-ce que c'est un jeu de dupe, François Cazasoprane?
C'est ce qui est dit là, quand même. C'est assez. Je pense que c'est vrai. C'est assez grave. Puisque ce qui est. Si je prends les déclarations de Jean-Félix Acquavive, il parle des proches de Macron. Je mets des guillemets, il dit pas les proches du président de la République, il dit les proches de Macron. Je sais pas s'il a voulu faire un jeu de mots, mais c'est quand même assez inquiétant. Ça rejoint quand même le problème démocratique, parce que dans cette histoire, il y a un, le fait qu'on discute avec des proches de Macron plutôt qu'avec le ministre de l'Intérieur qui est en charge du dossier. On devrait d'ailleurs se poser la question s'il ne faut pas arrêter de charger systématiquement les ministres de l'Intérieur des affaires de la Corse, et s'il ne faudrait pas être sur quelque chose d'un peu plus interministériel, soit une délégation particulière, soit peut-être le Premier ministre en direct. En tout cas, ça pose ce premier problème. Ça pose quand même un deuxième problème. On aura l'occasion d'en débattre, le débat du 49-3. Deuxième difficulté qui est soulevée par cette affaire, c'est, Laurent Dominat l'a dit, c'est quand même l'antériorité des choses. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, la discussion, c'était peut-on prendre les excédents de l'enveloppe de dotation de la continuité territoriale pour aller financer les routes de l'intérieur. Oui. Et aujourd'hui, on découvre qu'il n'y a plus de dotation puisqu'elle est consommée par le carburant. Petit manque d'anticipation et encore une fois, sans jugement de valeur parce que c'était plutôt une bonne idée à l'époque, mais un peu de courte vue quand même. Donc, et puis, troisième thématique qui est soulevée à mon sens, c'est vraiment, on revient sur ce que disait Michel Barra, sur la globalité. C'est-à-dire que là, on touche quand même les limites et on a l'impression que la Corse découvre les limites des transferts de compétences. L'État, quand il transfère les compétences, de tout le temps, il les transfère à un instant T avec la dotation de cet instant T. Charge à vous d'aller voir ensuite les recettes pour l'évolution. Ça s'est fait au moment des routes, ça s'est fait au moment de la continuité territoriale. Ça se fera encore demain. Ça, c'est quand même un débat qui doit alimenter l'autonomie, parce que c'est la manière de le transfert de compétences se finance comme ça. Et on a l'impression que la Corse, laboratoire des transferts de compétences depuis 30 ans, découvre ça maintenant.
Michel Barra.
Oui, ben, moi je suis exactement ce qui a été dit. Il y a en Corse et sur le continent des gens qui ne veulent pas qu'il y ait un lien et qui ne, même souvent ne veulent le statu quo. Parce que, pour des raisons sans doute d'intérêt, mais aussi parfois par de fausses idéologies. Il y a les deux, il y a un mélange des deux. Bon, c'est bien de ce dont il s'agit. Je prends la raison de la non-venue du ministre de l'Intérieur en Corse. Alors, j'entends plein de discours là-dessus. Premièrement, l'histoire de la situation des prisonniers. Je ne dis pas des prisonniers politiques, parce que pour moi, quelqu'un qui a tué, il a tué. Bon. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir un intérêt sur la question. Bien sûr qu'un jour, il va falloir tourner la page. Bien sûr qu'un jour, même les Anglais ont tourné la page avec les Irlandais qui ont été jusqu'à tuer Lord Mountbatten. Donc, il est idiot de ne pas vouloir tourner la page. Mais ne pas tourner la page, ça ne veut pas dire non plus justifier l'assassinat du préfet comme l'assassinat de Lord Mountbatten. Deuxièmement, il faudrait quand même qu'ici, qu'aujourd'hui, la justice est véritablement une entité indépendante. Alors, je suis quelqu'un de très à part. Je pense qu'elle est trop indépendante. Mais alors, ça, c'est mon point de vue. Je pense que quand le procureur s'accompagne, qu'il faut que le garde des Sceaux puisse toujours donner des instructions, y compris personnelles, au procureur, ce qu'il ne peut plus faire. Ce qu'il ne peut plus faire. Et comme aujourd'hui, la justice, depuis, avec ce pouvoir, mais avec les autres pouvoirs, veut s'affirmer contre l'exécutif, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il faut le savoir. Deuxièmement, la question de la cour d'appel, de cour d'appel qui met comme motif du refus. Je ne partage pas son point de vue. On va être parfaitement clair, je pense qu'il faut tourner la plage. Mais il faut cesser aussi en Corse de faire des personnes qui ont participé, je dis bien qui ont participé, parce que l'assassin n'est peut-être pas colonel et peut-être bien les cendres comme il le réclame lui-même, mais peu importe, d'en faire aujourd'hui des héros. Si on en fait des héros, la menace du trouble à l'ordre public, il existe. C'est-à-dire, effectivement, même sur ce sujet-là, nous sommes sur des responsabilités partagées. Comme si on ne voulait pas d'ailleurs qu'il y ait de solution. Parce que même pour ces prisonniers, on a l'impression aussi, comme le disait Laurent sur la question du dialogue avec l'État, qu'il y a des gens qui souhaitent qu'il n'y ait pas de solution. Peut-être que le mieux, d'ailleurs, serait peut-être une loi d'amnistie, et qui éviterait d'ailleurs, qui serait peut-être la solution. Mais vous voyez très bien le problème du corps des préfets, la tête qu'il va faire, ou la famille. Bon, mais on est quand même dans un empêchement, et dans un empêchement volontaire. Et là, il faut sortir de ça. Et c'est bien, effectivement, d'ailleurs, pour ça aussi qu'il n'y a pas de débat politique encore. C'est exactement la même chose.
Que pensez de la visite du ministre Dupond-Moretti en Corse il y a quelques semaines?
Pas grand-chose.
François.
Franchement, pas grand-chose. C'est de la mise en scène permanente. Non, il faut qu'on arrête. Je partage l'avis de Michel Barra. La justice, elle rend la justice au nom du peuple. À un moment, il va falloir aussi qu'elle se soumette. Si c'est une loi d'amnistie, elle s'appliquera, que ça plaise aux juges, que ça plaise aux préfets, que ça plaise aux amis de Macron, que ça plaise aux amis du président Siméogne, que ça plaise à tout le monde, ça sera comme ça. On est quand même... on donne des leçons de démocratie à tout le monde. On a des gens qui viennent, qui parlent et qui sont incapables de faire appliquer ce qu'ils disent le lendemain. C'est vraiment ça la difficulté démocratique. Sur la question des prisonniers... On cite des exemples dans le monde entier sur le statut de résident. On va chercher des endroits que personne ne connaît. On dit là, une fois, il y a eu une décision qui pourrait... Allons chercher ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Moi, je suis de cette génération qui a commencé la vie politique. Mandela. Vérité, réconciliation. Voilà. On dit la vérité. On dit clairement qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui n'auraient jamais dû se passer, qui ont été au-delà de l'humanité, qui ont parfois été au-delà de la cause politique aussi. Hein, il faut le dire, il y a eu des connivences. Mais par contre, on tourne la page, on se réconcilie, on se tourne la page. Ça a été fait par l'Afrique du Sud dans des circonstances extraordinaires. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas capable, à l'appui du processus politique institutionnel, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir une commission d'anciens élus de l'Assemblée de Corse, d'anciens parlementaires, d'anciens préfets s'il faut aussi, d'anciens magistrats, et de dire voilà, on va dire les choses tranquillement, on va publier un rapport, dire qu'il s'est passé au cours de ces 30 dernières années des choses inacceptables. Inacceptable, qui allait contre l'humanité, qui était à la limite des crimes contre l'humanité. Mais aujourd'hui, on est dans un autre temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on reconstruit, on construit quelque chose de nouveau. C'est quand même assez incroyable qu'on a un président qui a été réélu il y a quelques mois et on a un ministre de l'Intérieur qui n'a pas le courage de venir devant les maires alors qu'il y a eu des délibérations pour l'amnistie. On a eu des centaines, des pétitions, des centaines. Et il n'a pas le courage de venir devant les maires. Et on a un ministre de la Justice. Je ne sais même pas vous dire pourquoi il est venu.
Laurent Dominati.
Je dirais pas que le ministre de l'Intérieur n'a pas le courage de venir dans les mers. C'est quelqu'un qui est assez courageux et qui a déjà prouvé qu'il était courageux, ne serait-ce que quand il est venu juste avant. Il n'est pas venu devant les mers, il n'est pas venu rendre le dialogue, parce qu'effectivement, quand il y a une sorte de préalable et de mise en demeure qui est faite par les élus corses, il dit bah, dans ces conditions, je viens pas discuter.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est tout, on peut le comprendre. Cela étant, il va avec les maires, généralement il va discuter avec tous les maires, il va se balader justement dans les villages corses, donc c'est pas une question de courage, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois effectivement qu'il y a effectivement des forces qui tiennent en joue par des lobbies, par des conseils, par de l'influence. Les différents acteurs de cette discussion. Moi, je crois que cette discussion doit avoir lieu parce qu'effectivement, il faut tourner la page, parce que c'est l'avenir de la Corse, parce que tout projet économique et social, en réalité, est bloqué. Et ce que je regrette quand Michel Barra et François Casasoprane disent qu'il n'y a pas de débat politique, c'est que c'est exact, parce qu'après tout, on a le droit d'être contre.
Monsieur.
On a le droit d'être opposé, mais il faut dire pourquoi, et il faut le dire clairement. Il faut dire, par exemple, ben moi je suis contre parce que l'autonomie, par exemple, c'est-à-dire ce que disent un certain nombre de responsables politiques, c'est de la foutaise, et moi je suis pour l'indépendance. Bon, ben très bien. Ou bien, non, moi je suis contre l'autonomie parce que la Corse, c'est un département, une région pour les autres, c'est comme l'Ardèche et la Bretagne et l'Alsace, et je vois pas pourquoi il y a une différence. Voilà, on peut argumenter, on peut tout argumenter, mais là, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par des jeux de pression et d'influence. Et des jeux de pression par en dessous. Et c'est ce qui bloque le débat démocratique. Et ça, effectivement, c'est assez nuisible. Je préfère la démocratie, c'est la transparence, et c'est de parler à visage découvert, comme vous nous donnez l'occasion de le faire, d'ailleurs. Mais ça n'est pas aller dans les couloirs en disant « Attention, si tu fais ça, fais attention, parce qu'à ce moment-là, tu as compris. Hein, » voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. À Paris, comme ici. Mais c'est pas comme ça que l'on devrait faire.
C'est fondamentalement antidémocratique.
Pas bien, voilà.
Justement, l'Assemblée de Corse va se prononcer la semaine prochaine sur son budget supplémentaire. L'exécutif se prononcera peut-être également sur la DSP maritime. Est-ce que les négociations avec Paris n'ont pas réduit l'Assemblée de Corse à une chambre d'enregistrement le temps que ça se passe, quoi? Plus ou moins. Michel?
Bon, je pense pas.
Non, c'est...
Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de débat politique. Hein.
Non, mais il n'y a pas de débat politique.
Il n'y a pas de débat tout court.
Il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Bon, le budget passera. Il n'y aura même pas la discussion, parce que ce n'est pas la peine d'avoir 49-3. La majorité est écrasante. L'opposition ne votera pas le budget. Elle ne dira pas nécessairement pourquoi elle ne le vote pas, d'ailleurs. Je ne reproche pas de pas... je ne lui reproche pas de ne pas le voter. Mais si elle ne vote pas, il faut qu'elle dise pourquoi elle ne le vote pas, et concrètement sur les choix qui sont faits par l'exécutif. Quant à l'exécutif, bon, il va expliquer ce qu'il fait, mais même pas. Donc là encore, c'est le non-débat. Donc y a-t-il quelque chose à attendre de cette réunion de l'Assemblée? Oui, dans le sens où la Corse aura un budget. Non, parce qu'il n'y aura rien de nouveau et qu'il n'y aura pas de vrai débat. Peu importe que l'élu corse vote pour ou vote contre, mais au moins qu'on sache pourquoi il a voté pour,
contre. C'est une belle chose d'être élu. Donc déjà, faire vivre le débat avant de parler des partis, des groupes politiques, ça appartient à chaque élu. Oui, chaque élu a reçu une part de mandat. Déjà que chacun s'exprime et pas se contente, parce que parfois c'est confortable, parce que parfois aussi on subit quelques pressions, quelques tirages d'oreilles. Que chacun s'exprime déjà. Et ça, c'est la première responsabilité. Elle est à chacun et chacune et chacun des conseillers territoriaux qui sont élus, mais aussi dans chaque commune, à chacune et chacun des conseillers municipaux ou communautaires, de s'exprimer, de ne pas être simplement dans le confort du suivisme. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, elle appartient aussi à la majorité, qui est une majorité absolue. Est-ce qu'elle veut un 49-3 de fait, ou est-ce qu'elle veut vraiment, comme ça a toujours été le cas, que l'Assemblée de Corse soit la matrice des changements institutionnels et sociétaux de la Corse? Ça a toujours été le cas. Il y a eu de tout temps, quand la droite tenait les rênes à l'Assemblée de Corse, il y avait des gens comme Pierre Chaubon, Toussaint Loutiani, qui s'exprimaient.
Oui,
quand la gauche tenait les rênes de l'Assemblée de Corse, eh bien, il y a eu, comme le président Simeoni, qui s'exprimait. Voilà. Ils avaient une tribune et ils avaient aussi, quelque part, une petite part d'influence dans cet hémicycle. Et puis enfin, la responsabilité, elle est collective. On va parler statut, institution. On pourrait aussi peut-être parler mode de scrutin. Ça serait pas gênant. Il y a quand même un lien entre le mode de scrutin, la représentation politique et la vie d'un système politique. Ben peut-être qu'aujourd'hui, il faut s'interroger aussi quand on pense que les territoires ne sont pas forcément entendus, quand on pense que les questions urbaines ne sont pas traitées à l'Assemblée de Corse. Il faut peut-être s'interroger sur ces questions. Là aussi, de toute transparence. Et en essayant d'avoir un discours construit.
Laurent Dominati.
Alors, moi, je n'ai pas regardé le programme de l'Assemblée en dehors du budget.
Il n'est pas encore sorti, rassurez-vous.
Mais je crois qu'il y a des... la question de l'énergie, par exemple. Hein. Le préfet a proposé récemment que de revoir un petit peu la copie de la centrale du Vase pour...
Puis c'est un peu d'actualité.
Bah oui, avec l'explosion des prix du gaz, on peut se demander s'il faut remettre du gaz dans la future centrale, qui va coûter quand même fort cher. Et donc, il a proposé de mettre une usine un peu différente. J'ai pas tout compris, mais je crois que c'est entre la méthanisation, l'hydrogène, enfin, ouvrir le champ des possibles du point de vue énergétique. L'autonomie de la Corse. Eh ben oui, c'est d'abord l'autonomie de l'énergie. Nous payons la moitié du prix coûtant à EDF Corse. Il faut savoir ça. Grâce à la solidarité nationale, à péréquation, on paye la moitié. Ça, c'est un sujet fondamental. Et il y a le plan pour l'énergie et pour l'avenir, pour l'autonomie énergétique de la Corse qui est prévu, qui a été voté par l'Assemblée et qui doit être modifié. Là, c'est un enjeu fondamental pour les 60 années à venir. Et j'aimerais, enfin, je pense qu'on va en parler d'ailleurs, mais il faut absolument discuter de cela, d'autant plus que les responsabilités sur cette carence énergétique, elles sont aussi bien, voire plus du côté de l'État que du côté de la Corse. Mais disons qu'elles sont un petit peu partagées tout de même. Au moins, en tout cas, vous savez qu'on est dans l'illégalité totale. Hein. Et depuis, je crois, 2003 ou 2005, vous avez été élu, donc vous devez avoir discuté ça. Ça fait presque 20 ans que la Corse est une exception dans l'illégalité et dans la pollution. Deuxième sujet, les déchets. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été fait, la Chambre régionale des comptes. Nous payons entre, je crois que c'était deux fois, non, c'est pas deux fois, c'est plus. Nous payons deux fois et demi plus cher que la moyenne nationale, pour un service moindre. Voilà une question qui relève un petit peu de l'État, parce que le préfet a été obligé, justement, je crois que c'était au mois de juin, au mois de juillet, de prendre un décret pour élargir encore les sites d'enfouissement. Oui, oui. Ça, ce sont des questions qui sont des questions... mais vraiment, hein, je vous assure, je dis pas ça dans un esprit polémique, au contraire, parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Mais ça, ce sont des sujets absolument fondamentaux. Alors, bien sûr, peut-être qu'on n'a pas les ressources, ni pour traiter, on va pas faire une centrale nucléaire en Corse, peut-être pas. Mais par exemple, je vois que le gouvernement a mis 10 milliards pour construire des centrales à hydrogène sur tout le territoire national. Peut-être qu'il ne faut pas faire une centrale à hydrogène en Corse. Mais pourquoi pas? J'en sais rien, moi. Pourquoi pas? Et si ce n'est pas une centrale à hydrogène, peut-être qu'on peut en faire une autre. Et je dis, vous voyez, c'est le moment, quand on discute statut d'autonomie, pouvoir réglementaire, etc., autonomie de plein droit et de plein exercice, sans que chacun sache exactement de quoi il en retourne, de dire, oui, nous, on veut développer notre économie, on veut plus de pouvoirs locaux, et en même temps, on veut un projet d'avenir sur l'énergie, sur les déchets, sur les transports. Et c'est le moment de demander à l'État. Et il faut absolument installer cette relation, au moins de confiance, de respect mutuel, pour avancer sur ces sujets-là. Là, je suis très optimiste parce que je pense qu'on peut le faire, avec le gouvernement actuel, en tout cas avec le ministre actuel, qui me semble de bonne volonté. Et je pense qu'il faut le faire, mais il faut le faire vite, parce que dans 6 mois, alors les forces obscures l'emporteront. Voilà.
Oui, écoutez, l'exemple de base est quand même extraordinaire. Parce que la Corse a rêvé à un moment... d'un gazoduc, je ne sais plus comment on appelait ça.
C'est le Galzi.
Comment
le Galzi.
Le Galzi.
Oui.
Le Galzi entre l'Algérie et la Corse. Il n'y a qu'un type de problème, on a oublié de demander l'avis à l'Algérie. Hein. On n'a jamais discuté avec l'Algérie pour savoir si elle était disposée à le faire. En fait, elle n'était pas disposée à le faire. Ça a été donc quelque chose qui a été de l'ordre, non pas du rêve. Après tout, si on rêve, pourquoi pas. Mais de l'illusion. Bon. Aujourd'hui, personne ne s'attendait finalement à cette crise du gaz, etc., qu'il y a tout un tas d'événements. On ne peut pas reprocher non plus tout. Mais la question, elle est d'avoir des projets, d'en vérifier la faisabilité. Pour en vérifier la faisabilité, ça implique deux choses. Une technicité et un débat. Notre ami François dirait démocratique. S'il en manque un des deux, on n'arrivera pas au bout. Et le rôle de l'État, là, derrière, il est quand même non seulement sur la question des financements, mais aussi de l'accompagnement d'expertise et d'ingénierie. Ce dont a besoin la Corse, c'est effectivement d'un accompagnement. Parce que nous n'avons pas en Corse, même si nous croyons l'avoir, même si nous pensons que nous sommes... on dira la pépinière de toutes les intelligences françaises, nous n'avons pas l'ingénierie qui nous permet de tout faire. Ce qu'il faut demander à l'État, c'est de mettre ses compétences, qui sont souvent très grandes, au service de... Et nous serons autonomes si, effectivement, les compétences d'État se trouvent à être mises sous la responsabilité des décisions corses, pour faire avancer les choses. La question de l'ingénierie, ici, est la première. Je vais faire une petite remarque de grande satisfaction. Est-ce que vous vous souvenez du temps, où, le temps qu'on a mis pour faire la grande courbe de la route de l'aéroport d'Ajaccio? C'est à peu près l'histoire de l'hôpital d'Ajaccio. Mais je regarde comment les travaux se font là actuellement. Ça se fait bien, ça se fait rapidement. Donc c'est possible de faire les choses bien et rapidement.
François Casasoprano, guise de conclusion.
Eh bien, moi je retiendrai de nos échanges quand même qu'il y a besoin d'une parole politique et d'un débat qui vivent dans la société et qu'aujourd'hui, on a commencé ces discussions dans une espèce de face-à-face assez dure. Et j'ai peur qu'elles se poursuivent par un face-à-face un petit peu plus larvé, un petit affrontement un peu plus larvé. Ouvrons-le, ouvrons ce débat. Voilà, parlons des sessions à l'Assemblée de Corse. On peut en faire autant qu'on veut, hein, et on peut demander à chacun de s'exprimer. On peut demander à tous les partis politiques, toutes les organisations syndicales, faire vivre sur les antennes ces débats. Et je pense que c'est le moment. Oui.
Le Grand Dominat, Michel Barra, François Casasoprano. Merci de m'avoir accompagné. On se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h, ainsi que sur notre site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut!
Redis-moi le nom du projet de gaz, là.